messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Et bienvenue sur les ondes de Radio Canyon 102.2 ou sur radiocanyon.org dans la causerie, comme tous les dimanches, ou presque, à 22h. Ce soir, nous avons à la technique Jean-Yves.
Bonsoir. Et nous avons Fab qui a fait le lancement.
Bonsoir. Et c'est tout. Parce qu'on n'est que deux ce soir. Voilà. Alors la causerie, si vous voulez nous joindre, c'est facile, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com, et on répond en général assez rapidement.
Mais bien sûr.
Et sinon, tu peux nous joindre sur via le blog. Enfin, tu peux aller laisser des petits commentaires sur le blog. Laisse-les là-bas, c'est mieux parce que c'est à nous, ça appartient à Radio Canu, tout ça. Et comme ça, on fait pas faire d'argent à qui que ce soit, par même pas Radio Canu, parce que c'est gratos. Donc, tu laisses sur le blog et c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Ou alors, tu vas sur radiocanu.org, tu cherches les émissions, la causerie, on est par là. Tu nous trouveras et ça te permet de réécouter toutes les causeries que tu veux depuis la numéro uno, la numéro 1. Eh oui, bon, celle-là, tu la réécoutes pas, s'il te plaît. Et puis voilà, et puis bah, sinon, que vous dire, on est aussi sur un espace socio-commercial appelé Facebook. Mais là, en fait, on fait juste de la promo, comme tout le monde, sur Facebook. Parce que finalement, sur Facebook, que faisons-nous d'autre que de la promotion de nous-mêmes? Bonne question.
Waouh. Tu poses le cadre. Hein.
C'est philosophique ce soir.
C'est ça. C'est ça.
Tu parles.
Eh ben, c'est Fab qui va ouvrir cette causerie.
Oui.
Ouais, on a un peu peut-être des variations de son, je sais pas.
De micro, en fait, je ne t'entends quasiment pas. Je pense qu'il faut que tu montes ton micro.
Non, mais... bref, on réglera ça.
Pas grave.
On réglera ça entre nous. Pour l'instant, on va donc c'est Fab qui va vous causer, nous causer. C'est un peu un coup de gueule, un billet d'humeur.
Ouais, moi j'ai appelé ça autour d'un moment de propagande parce que je trouvais que ça se prêtait bien à ça, en fait. Voilà.
Et ben,
donc, on y va. Donc, je vais un peu lire parce que c'est un truc que j'ai écrit. Voilà. Donc, la propagande d'État et autres, hein, ça n'a rien de neuf. Mais on sait qu'elle arrive, qu'on la vit à certains moments. Mais celle qu'on vit en ce moment, elle est quand même fabuleusement sans limite, je trouve. Et elle est quand même assez impressionnante. Alors, tout commence dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril 2019. Un édifice connu qui est là depuis des siècles prend feu. Bon, c'est Notre-Dame de Paris, comme il semble qu'il faille dire à chaque fois. C'est beau et en même temps, c'est très inquiétant parce que ça ferait du sacré dégât un tel édifice qui se casserait la gueule quand même. Bon, ça crame encore pendant plusieurs heures, mais pouf, en moins d'une heure, c'est le grand déballage de l'émotion forcée qui fige tout un pays. Ministres, présidents, prélats, badauds, médias, tous sont là pour nous dire pourquoi on se doit d'être triste et en quoi ce symbole qu'est Notre-Dame est au cœur de ce qui fait la France. Bon, jusque-là, ça allait bien, jusqu'à ce que dans mon propre milieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gauche alternative et les anarchistes, on vienne à m'expliquer que c'est important Notre-Dame quand même. Ok. Autrement dit, on nous ressort le bon vieux « la France, fille aînée de l'Église », mais sans vraiment nous le dire, et on nous demande de retrouver nos racines chrétiennes un peu oubliées. Petit rappel, en France, 45% des gens sont athées. Voilà, les chrétiens sont donc minoritaires en France, il faudra le rappeler. Et donc on nous demande de le réactiver, hein, et puis de le réactiver bien, et puis en plus, merde, c'est quand même la Pâque, hein ? Non, pas la loi Pacte, hein. La Pâque, vous savez, le truc où Jésus a fait un truc. Je sais même plus ce que c'est, Pâque. Moi, je sais qu'on bouffe des chocolats. Alors ouais, un monument qui crame, c'est toujours emmerdant pour ce qu'il contient, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même de l'histoire dans un monument, qu'on le veuille ou non, il y a des tableaux, des choses comme ça, et pour étudier l'histoire des humains à travers les siècles, ok. Mais c'est pas un attentat, c'est pas une guerre, c'est pas, je sais pas, une destruction volontaire, et encore, ça aurait pu être une destruction volontaire à but politique, on aurait pu le comprendre, non. Là, c'est un simple accident domestique banal, comme il y en arrive tous les jours à plein de gens, qui a entraîné un incendie, et les pompiers de Paris qui ont sauvé les meubles. En gros, bah, il n'y a rien de bien passionnant dans tout ça, hein. C'est un feu, quoi.
Que des pompiers ont éteint. Incroyable.
Ouais,
n'est-ce pas ?
Moi, c'est peut-être les seuls en qui j'ai un petit élan à me dire putain, bien joué, quoi, parce que ça fait cramer bien, mais voilà, en dehors de ça, bon. Et en même temps, même pas une petite intervention divine façon Avengers pour nous montrer qu'il existe l'autre là-haut qui n'existe pas. Eh ben non, même pas. Donc finalement, il n'a rien à foutre de ces maisons. Ah bon, bref. Depuis des jours, quand même, on nous parle que de cette cathédrale qui n'est même pas le symbole, qui n'est quand même que le symbole d'un catholicisme triomphant. Rappelons que Notre-Dame a été construite pour symboliser l'appartenance de Paris à la grande nation catholique. C'était pas par hasard qu'on a fait la cathédrale, hein, quand même. Hein.
Ah, c'était pas pour les artisans, tout ça.
Non, ça, ils en avaient rien à foutre. Ils pouvaient crever, les artisans, tout ça, c'était pas le problème. Non, c'était pour montrer quand même. Voilà. Et comme si c'était primordial, c'est la seule info, la seule chose qui compte. Et en même temps, bah, c'est ça la propagande. Exactement ça. C'est réunir un peuple autour du vide de symboles pour mieux les tenir en laisse. C'est ça en fait, la propagande. Alors, on ne lésine pas sur le dos de la cuillère, hein. On nous parle du 11 septembre, à nous, d'une perte inestimable pour le pays, d'un moment d'atroce souffrance pour les Français. Alors, juge rappelle, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, c'est super cool. C'est juste une bâtisse qui a cramé, c'est pas grave, c'est rien, c'est juste du bois, c'est pas dramatique. Rien, vraiment rien ne nous est épargné depuis maintenant une grosse semaine. Disons-le, la maison du truc qui n'existe pas, que certains appellent Dieu, n'a pas grand-chose perdu grand-chose au final. Les œuvres d'art ont pour la plupart été sauvées, on parle de moins de 2% d'œuvres abîmées, c'est que dalle. Hein. Les murs aussi, parce que figurez-vous qu'on découvre un truc fabuleux, bah la pierre, ça brûle pas.
Ouais, et ça, j'espère que les scientifiques vont se pencher dessus.
Parce qu'il y a un complot là-dessus.
Ah, je pense.
Voilà, non, il faut juste se rappeler que les bâtisseurs de cathédrales savaient qu'il fallait préserver la structure si le toit brûlait. Donc ils avaient prévu le coup, tout simplement.
Ah, mais ils étaient pas bêtes.
Ils étaient pas cons. Et voilà, donc en gros, il reste à refaire le toit. C'est tout ce qu'il y a en fait. J'aimerais que vous me penchiez sur l'idée du nombre de personnes qui, chaque année, perdent dans un incendie leurs appartements, maisons ou autres, et qui sont obligées de vivre loin pendant des années. Eux, ils ont été vraiment touchés dans leur chair. Là, ben, en gros, il y a juste des touristes qui ne pourront pas visiter Notre-Dame. En gros, c'est ça, hein, pendant quelques années.
Est-ce qu'il fait moins d'argent à rentrer, en fait ?
C'était ça. Parce que c'est la raison pour laquelle on avait laissé des œuvres dedans. Hein. C'était pour que les touristes puissent viendre. Comme on dit, bien des chez nous, comme on disait au Gros Dent. Et oui, parce que depuis des mois, en fait, les gens disent s'il y a des gros travaux, il faut sortir toutes les œuvres. C'est du patrimoine national. Il ne faut pas qu'il brûle ou qu'il y ait un incendie. Ah, tiens, bah c'est arrivé. Bah non, c'est pas du complot. C'est juste qu'en fait, on essaye de prévoir quand il y a des travaux. Vous voyez. Bah là, on avait tout laissé pour qu'on continue à rentrer et continue à faire rentrer de l'argent. Mais ce qui est quand même pratique, en plus de ça, c'est que pendant qu'on nous parle de ça, bah, on ne nous parle pas d'autre chose. La preuve en est, les attentats immondes de ce matin qui ont été perpétrés au Sri Lanka, qui ont fait au moins 160 morts, et on parle ce soir de 202 morts, ce qui est quand même assez énorme, qui ont touché 8 lieux, eh ben, ils se sont retrouvés jusqu'à ce soir, qu'on apprenne qu'il y aurait peut-être des Français dans les gens décédés, en 3e, 4e, voire 5e position dans les journaux télévisés. Après, la première information... Qu'est-ce qui se passe à Notre-Dame de Paris ? Eh bien, ça fume même plus. Donc, je ne sais pas pourquoi on nous en parle encore, mais voilà. Évidemment, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. Comme si le Sri Lanka ne vivait pas, lui, un vrai 11 septembre à lui. Juste comme ça, pour vous rappeler, c'est son énième 11 septembre. Il ne les compte même plus là-bas, les attentats. Et c'est tout le problème. C'est qu'en fait, on fait passer ça après du bois qui a cramé. Voilà. Dans le même temps, c'est le silence sur la campagne des élections européennes. Vous savez que normalement, fin mai, les gens qui veulent voter peuvent aller voter pour les élections européennes. Bah, pas que personnellement, ça me passionne, mais c'est quand même toujours un peu intéressant de savoir quelles sont les lignes directrices politiques que portent les partis politiques. Parce que c'est quand même eux, jusqu'à preuve du contraire, qui ont un petit peu le pouvoir en ce moment. Eh bien non, on n'en parle plus. Alors ça tombe bien parce que ça arrange un peu tout le monde, parce que finalement... pas grand monde avait grand chose à dire. Donc du coup, c'est pratique. On nous parle de Notre-Dame et on ne parle pas de ça. On apprenait aussi cette semaine que pour loger toutes les personnes sans abri en France, il suffirait d'un seul investissement de 230 millions d'euros. Voilà. Et en une seule fois, donc. Hein. Je sais, on va me dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'argent, sauf qu'on a trouvé 1 milliard pour rénover la bâtisse cramée.
1 milliard en un jour ou deux.
Ah, en un jour et demi, exactement, le milliard. Pour, alors oui, je sais, c'est pas comparable. Je suis d'accord avec vous. C'est vraiment pas comparable. Comment on peut privilégier un monument sur des êtres humains ? Dans ces temps aussi, il y a des gens, les journalistes, vous savez, ces vilains sur qui tout le monde tape en ce moment, parce que ça fait bien de taper sur les journalistes. Eh bien, en fait, il y a des journalistes qui ont bossé et qui ont sorti des choses assez troublantes sur les ventes d'armes françaises au Yémen. Et figurez-vous qu'ils ont réussi, alors c'est le média Disclose, hein, pour ceux qui connaissent, média d'investigation, qui ont sorti en fait un dossier secret qui ne vient pas de n'importe où, hein, c'est pas, ça vient des James Bond français, c'est-à-dire des renseignements. Ils ont réussi à avoir accès à ce dossier. Et qu'est-ce qu'ils disent, le dossier ? Bon, on y apprend simplement que toutes les armes qu'on a vendues l'Arabie Saoudite et à ses alliés, aux Émirats Arabes Unis, eh ben en fait, elles ont servi dans des offensives au Yémen et donc elles ont tué des civils. Voilà. Ils écrivent noir sur blanc. Ben en fait, c'est des offensives militaires violentes à but de coercition et donc il y a des civils qui ont été tués. Voilà. Et notamment par l'Arabie Saoudite. Madame Parly, notre super ministre des armées de la puissante France. Oui, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'elle se présente, elle nous rappelle que la France est une grande puissance militaire, au cas où on est oublié, nous a sorti cette phrase magique, et qui vaut son pesant de cacahuètes. Elle n'a pas connaissance que les armes vendues seraient utilisées directement dans le conflit. Donc, a priori, en France, on fabrique des armes, on les vend, mais c'est pour que les gens les entreposent, ou je sais pas, ou on fasse des reliques.
Ah mais t'as pas un obus dans ton salon ?
Bah non. T'as pas un obus dans ton salon avant ses 50 ans, t'as raté ta vie. Bah oui, parce que ces nouveaux, on vend donc des armes pour qu'elles ne servent pas. Voilà. Pourtant, le document, lui aussi, révèle et souligne que les armes vendues sont pour plus de la moitié des armes dites offensives et pas défensives. C'est-à-dire des missiles, des chars, des canons qui servent en fait à tirer et pas à se protéger. Parce que oui, ça existe, les armes défensives. Par exemple, si vous avez des missiles anti-missiles, ça sert à empêcher qu'un missile vous touche. C'est une arme défensive. Là, non. On a vraiment vendu des trucs qu'on envoie pour exploser tout. Mais miracle, si j'ose dire, Notre-Dame est en flammes. Et de tout cela, on ne va plus parler. Parce que ce sera embêtant quand même qu'on puisse se poser des questions et débattre sur le fait que la France vend des armes et que ces armes permettent de tuer des gens. Parce que quand même, c'était intéressant cette information. Mais je pense que Madame Parly, elle se dit « Oh putain, Dieu est bien placé. Il a fait cramer la maison. »
C'est ça. Voilà. Et des armes toujours vendues avec le soutien incroyable du VRP des industriels français, autrement appelé président, qu'il soit Hollande, Macron ou un autre.
Et par les fameux donateurs aussi, qui donnent pour refaire la cathédrale. La boucle est bouclée, tout va bien. Je vous rassure, ça va bien se passer. Mais vous inquiétez pas, on est sauvés, on a retrouvé le coq qui était en haut de la cathédrale quand même. Et ça, c'est super important. Voilà, au passage, tous ces gens qui me parlent depuis quelques temps et qui nous parlent depuis quelques temps de sauvegarde du patrimoine, de tout ça, qu'il faut garder des traces pour l'humanité, ne semblent finalement pas tellement touchés par la destruction de Sanaa. Alors Sanaa, je vous en ai déjà parlé, ou Sanaa, si vous voulez le dire en yéménite. J'en ai parlé quand je vous ai parlé du Yémen, c'est la fameuse ville qui est pilonnée quasiment tous les jours depuis maintenant quasiment 3 ans. Et en fait, cette ville, on oublie juste qu'elle a 2500 ans, qu'elle a connu plusieurs civilisations, et qu'en fait c'était un trésor mondial de l'humanité, tout simplement parce qu'elle était la démonstration, par le bâti, comme on dit, c'est-à-dire par les monuments, que plusieurs civilisations avaient pu coexister au même endroit, pacifiquement, pendant des années. Vous voyez, c'est un beau symbole. Je vous rassure, les missiles vendus par la France, vous vous épargnez de pouvoir visiter ça. Soyez heureux. Mais vous inquiétez pas, on va refaire la cathédrale. Allez, je vous épargne la Chine qui lance une grande épuration ethnique anti-musulmans en mettant en camp des millions de personnes et en détruisant toutes les mosquées du pays. Parce que là aussi, selon la religion, bon, ça vous émeut ou ça vous émeut pas. A priori, là, ça émeut pas grand monde. Hein. Donc voilà, on va pas trop parler, je voudrais pas vous réveiller. Ou même d'ailleurs, je vais même pas vous parler des annonces repoussées du chanoine de Latran. Oui, le chanoine de Latran, je vous rappelle, c'est Emmanuel Macron, président de la République laïque. Oui, vous cherchez l'erreur. Voilà. Bon, et je vais vous dire, oui, parce qu'il a tout décalé. Vous voyez, il a dit, oh bon, je peux pas parler. Il y a quand même le feu à la maison.
Ah oui, il y a l'émotion. Oh,
il y a l'émotion. On s'affiche le pays. Voilà. Donc, faut croire que pendant ce temps. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont pas pu parler, mais par contre, ils ont pu voter. Parce que pendant le même temps, ils ont passé la loi Pacte. Alors, il y a l'émotion pour pas parler, mais il y a l'émotion quand même pour voter. Donc tout va bien, je vous assure. Et la loi Pacte, c'est pas une loi gentille. Et ça n'a rien à voir avec les œufs de Pâques. Hein, soit clair, vous irez chercher. Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu énervé par cette période, une fois de plus, de détournement d'attention permanente. Et c'est valable aussi, même pour ceux qui mènent leur lutte à eux. Hein. On a des luttes victorieuses dont on ne parle pas. Les gilets jaunes, on n'en parle quasiment pas non plus. Enfin voilà, tout ce qui se passe devient un petit peu secondaire d'un seul coup. Et on est vraiment dans ce que développe Naomi Klein dans son livre du même nom, la stratégie du choc. C'est-à-dire que c'est l'art de prendre quelque chose de choquant pour figer un pays et pour l'orienter. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là. Et en fait, le fait d'être connecté en permanence aux réseaux sociaux ou autres, j'ai l'impression, facilite encore plus cela. Parce qu'il y a une sorte d'émotion collective forcée qui se met. Moi, j'ai vu passer des trucs très drôles. J'ai vu des gens qui allumaient des bougies pour Notre-Dame. Je trouve que quand même, d'un point de vue, c'est assez cynique, non ? D'allumer une bougie après un incendie. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Et ils mettaient des petites bougies sur les réseaux sociaux. Et je trouvais ça drôle. Je me suis dit quand même, ils ont allumé.
En mémoire d'un bâtiment.
Qui a pris feu.
C'est ça.
Surtout, c'est ça qui est marrant.
Oui, non mais.
Et je pense que pour rendre hommage à Lady Di, ils vont chez les concessionnaires le plus proche, pardon. Bref. Bon, c'était un petit coup de gueule, je ne vais pas être long, j'avais juste envie de partager ça avec vous, je n'ai pas de solution, mais franchement, cette période m'énerve. Voilà.
Ah bah oui, et puis alors, et là on parle du pouvoir, mais que, enfin, il y a plein de gens qui succombent à cette émotion-là. Enfin, j'ai pu. Lire, entendre, même des gens engagés qui disent « Ouais, mais quand même, le travail qui a été fait... »
Mais tout est travail, hein, par définition.
Il
faut arrêter avec ça. Hein, je veux dire, c'est... on ne respecte pas le travail des gens. Bah, je vais vous donner un exemple très concret. J'aime pas les prisons. Les prisons, elles sont faites par des ouvriers. Si on vide les prisons, je ne vais pas vouloir qu'on les détruise pas parce qu'elles ont été faites par des ouvriers. Oui, c'est juste la même logique.
Oui. Voilà. C'est ça en fait, et que encore une fois, comme tu le rappelais, c'est un incident, un accident.
Ah mais c'est un accident domestique, hein, c'est un incendie en fait, voilà.
Il n'y a pas besoin de se gargariser sur le travail fait. Et puis rappelons-nous que quand tous ces genres de bâtiments ont été construits, c'était aussi une période où le religieux avait encore plus de poids politique, encore plus de pouvoir qu'il n'en a aujourd'hui.
Alors ne lui en redonnons pas plus.
C'est ça quoi, arrêtons à un moment donné. Et puis il y a vraiment des moments moi, de transcendance. J'ai vu une journaliste sur le service public, c'était de la transcendance quoi. Nous avons tous un peu de sacré en nous. Non, déjà tu parles pour toi si tu veux, moi j'en ai pas. Mais et c'est vraiment tout ce truc là, c'est toute cette notion vraiment très étrange de communion collective. Un peu forcé quand même.
Oui, c'est ça, mais c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire on vous impose en fait d'être triste. Moi personnellement, je vais le dire, hein, ce qui fait la France c'est très divers, ce qui fait le monde est très divers, et il n'y a pas un truc qui symbolise une chose, c'est horrible de penser ça, et je trouve que même dire qu'on peut symboliser un pays, c'est très étrange je trouve pour moi, vu la diversité des individus qui le composent, et donc là je trouve qu'il y a vraiment un truc malsain, mais encore une fois, c'est vraiment ce que disait Naomi Klein, c'est la stratégie du choc, c'est le fait d'arriver avec quelque chose et de pouvoir passer derrière, parce qu'en attendant, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais les réformes économiques, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. Et pendant que les donateurs vous expliquent qu'ils ont de l'argent à donner, ben en fait, ils ne donnent pas ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas leurs impôts, ils ne payent pas leurs cotisations sociales. Et puis pendant qu'ils font tout ça, en fait, ils sont en train de détruire l'emploi globalement. Pas que je sois un fan de l'emploi, mais c'est toujours mieux en fait, d'avoir un CDI que d'être précaire à vie.
Ah mais c'est-à-dire que c'est surtout une notion de pognon. C'est-à-dire que là, quand même, tous ces gros riches, ces gros propriétaires, ces gros patrons, ils arrivent, ils ont du pognon. Je veux dire, on ne sort pas 200 millions... Enfin,
c'est-à-dire 1,72€ d'un RSA.
Donc,
pour la fortune, par exemple, de Bettencourt.
Et voilà, et en fait, le truc, c'est que oui, c'est surtout révélateur de oui, il y a du pognon, on le sait depuis longtemps, des gens le disent depuis longtemps, il y a toujours eu du fric, et les gens produisent de l'argent, parce que c'est comme ça dans le capitalisme.
Ils ne se sont pas fait ce pognon par hasard, ils se sont fait pognon sur le dos des gens qui bossent
pour eux. Bien évidemment. Mais que, comme dit, un gouvernement, il n'ose pas prendre l'argent riche parce que ça les ferait fuir. Par contre, il faut les glorifier quand ils filent un peu de pognon. Non, mais en fait, on se fout de la gueule de qui, là, en fait.
De nous.
Ah ouais, ça doit être ça.
je vous garantis.
Et ce qui est marrant, c'est quand même cette union sacrée, finalement, entre État, patronat...
Et Église. On retrouve toujours les mêmes.
Ah oui, c'est la Sainte Trinité, non ?
il manque l'armée, mais ça faisait 4, ça marchait moins bien.
Ouais, c'est ça. Bon, on s'écoute un titre de...
Oui, un petit titre de reggae, ça change un peu.
Eh ben, allons-y, alors.
C'est parti.
Fabricant de Kalachnikov, à vous, fabricant, que ce soit le vendeur, que ce soit les acheteurs, vous êtes tous des complices. Que ce soit le fabricant, que ce soit le vendeur, que ce soit les acheteurs, vous êtes tous des criminels.
Voilà, vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Oui, on s'est dit, comme ça, que dimanche sur Radio Canu, ça manquait de reggae. Ouais. Alors du coup, on a rajouté un petit ce soir, et puis bon, on a fait un blind test, et même les grands fans de reggae ne trouvent pas qui c'était. Alors je vais vous dire qui c'est, c'était Ismaël Isaac. Il est, c'est un chanteur qui est d'Abidjan, donc de Côte d'Ivoire, voilà. Et là, il chantait Vendeur d'armes. Voilà, donc,
c'était qui, dans le thème.
Ouais, qui exactement. Bah, ça collait.
Mais ouais, c'est dans le thème.
Et là, Jean-Yves, je te passe la parole parce que là, tu vas nous passer quelque chose d'assez étrange, étonnant.
Non, c'est pas étrange, c'est étonnant.
Ça s'appelle une interview.
Non, c'est ça. Oui, c'est ça, en fait. Ça s'appelle juste une interview, en fait. Et donc, oui, en fait, on va vous diffuser l'interview que j'ai fait d'Aurélien Roulant, qui est l'auteur du livre Kate Austin, paysanne, anarchiste et féministe. C'est aux éditions du Monde Libertaire. Il était passé sur Lyon il y a un mois environ, je crois, et il y aura d'autres dates. Enfin, il est dans différentes villes, je crois qu'il est à Metz en pas longtemps. Enfin voilà, donc si vous voulez peut-être le rencontrer, ce sera l'occasion, et sinon vous pouvez aussi l'inviter à faire des soirées près de chez vous, je pense qu'il sera partant. Donc c'est une demi-heure où on cause de Kate Austin, du
mais
livre,
pas que.
Mais pas que, forcément. Et bah donc on vous souhaite une bonne écoute et on vous retrouve à la suite de cela.
Bonjour à toutes et à tous, et bien aujourd'hui c'est une causerie en dehors des murs de Canu et en tout petit format vu que je suis tout seul. mais je suis en compagnie de Aurélien Roulant, qui est l'auteur du livre Kate Austin, paysanne, anarchiste et féministe aux éditions du Monde Libertaire. Et ben je vais pas faire tout ça tout seul, donc Aurélien, coucou, comment tu vas?
Bonjour Jean-Yves, merci de m'inviter à Radio Canu. C'est très sympa, voilà, une émission que j'écoute moi, comme je suis plutôt, enfin j'étais plutôt parisien, maintenant je suis breton, mais que j'écoutais du net en tout cas, voilà, qu'on peut avoir sur le site de Radio Canu.
C'est ça.
Et donc ton livre, Kate Austin, comment on peut commencer? Est-ce que tu veux nous présenter direct le personnage, ou pourquoi toi t'as eu l'envie de faire un livre sur elle, en fait?
Bah déjà, pourquoi, voilà, j'ai eu envie d'écrire sur une femme paysanne, anarchiste et féministe du, on va dire, de la fin du 19e et du début, tout début 20e, hein, puisqu'elle est morte en 1902. Bah, il y a énormément de raisons à ça, évidemment, pour en citer de mémoire toutes, je sais pas si je vais y arriver, mais une des raisons, c'est que je trouve, enfin, comme je trouvais à l'époque qu'on n'y a pas assez de femmes dans le mouvement anarchiste, en tout cas de femmes connues, Hein, on peut citer Voltairine de Cleyre, Emma Goldman, Louise Michel, évidemment, Lucia Sanchez-Savorni à la rigueur, de Mujeres Libres. Et puis voilà, on connaît pas beaucoup, nous, en tant qu'anarchistes, alors qu'on, de femmes, alors qu'on peut en citer énormément d'hommes. Et ça me posait problème, en tout cas pour ma culture personnelle. Et puis évidemment, après, bon, bah, une fois que j'ai cherché sur Cage, j'ai voulu partager mes informations, tout simplement, mes trouvailles. Et donc ça, c'était une première raison. La deuxième raison aussi, c'est que le mouvement anarchiste, il faut être sincère, hein, si c'est le mouvement le plus égalitaire au monde, qui est d'ailleurs à la pointe des combats féministes, qui sont d'ailleurs bien, moi je trouve, féministes anarchistes, qui ont été oubliés aujourd'hui, mais qui étaient vraiment à la pointe. On peut citer des exemples comme Nelly Roussel, qui est la première femme en 1902 à se déclarer pour les contraceptifs, enfin voilà, et en France, j'entends. La question du mariage aux États-Unis était déjà discutée. Il y a ça, mais voilà, ça n'empêche que le mouvement anarchiste dans son ensemble, et en discutant avec les compagnonnes anarchistes aussi, se plaignent des fois des copains, en disant que voilà, ça reste quand même des fois très, très viriliste, et que bah, les anarchistes n'échappent pas, on va dire, à ce virilisme de la société, et comment dire ça, révolution bien ordonnée commence par soi-même, donc il faut déjà commencer par travailler sur soi, ces questions-là. Et moi, personnellement, comme tu le sais, bon, moi j'ai eu, tu le sais parce qu'on se connaît, j'ai eu 3 opérations avec cœur ouvert, et ce qui fait que je suis pas forcément ce qu'on peut appeler un grand costaud, quoi. Mon père est un rugbyman, mes 2 frères sont pompiers, et moi je suis un ringalet, quoi. Donc, voilà, et si tu veux, l'image qu'on a de l'anarchiste se battant pour le grand soir à la Dorouti, le fusil et le torse au vent, moi j'ai un peu de mal avec ça, en fait. C'est vrai qu'en cherchant des figures féminines, ça m'a plus parlé, tout simplement parce qu'elles sont dans le militarisme, pas parce que c'est des femmes, mais l'antimilitarisme, pardon, ouais. j'entends bien. Et sur des questions qui me touchent beaucoup plus, je les trouvais aussi, je trouvais les femmes qui étaient plus concrètes. Et bon, en cherchant sur Kate Austin aussi, après j'en ai découvert plein, j'ai continué ma recherche, hein, c'était vraiment le début. Et puis sur les femmes, j'ai découvert des femmes extraordinaires, moi, comme Nelly Roussel, on parlait il y a 2 minutes, comme d'autres. Et j'ai découvert un anarchisme, on va dire, entre guillemets, féminin, sans vouloir essentialiser. C'est un anarchisme que je trouve plus ancré, plus concret, moins viriliste, dans le sens où je te mets des thèses de 3 km de long et je t'impose ma pensée. C'est plutôt des femmes qui sont... C'est beaucoup de biographies, déjà. C'est beaucoup des femmes qui sont dans le concret, dans la vie de tous les jours, qui sont ancrées... parce que la société, hein, faut se rappeler, fin 19e, début 20e, les femmes appartenaient soit au mari, soit au père, et donc qui n'ont pas de droits et qui sont beaucoup plus ancrées dans le combat, forcément, quoi, puisque c'est elles qui prennent, sont en première ligne, on va dire, de la connerie humaine, j'ai envie de dire.
Et en même temps, c'est maintenant que tu dis ça que je me dis, effectivement, parce que même dans le milieu social, en fait, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques penseurs, je dis bien penseurs anarchistes, qui sont issus de milieux quand même bourgeois, alors qu'en fait, est-ce que nombreuses sont les femmes bourgeoises, finalement, dans le milieu anar au départ, en fait ? Alors, est-ce que je suis peut-être complètement à côté avec ma question, mais je sais pas si tu comprends le sens
Les femmes, les femmes bourgeoises dans le milieu anar. Je pense que Nelly Roussel, par exemple, c'était pas une pauvre. Je peux me tromper, mais y en a quelques-unes, mais oui, c'est plus ouvrier. Enfin, je pense, c'est plus ouvrier complètement.
Ouais. Ce que je me dis, il y en a certains.
Emma Goldman, bon, elle était d'une famille. Elle est arrivée, elle était carrément. Elle était pas riche, hein, elle était couturière, etc. Voltairine de Cleyre, pareil.
Oui, alors que quelques penseurs sont un peu des familles princières, etc., etc., en fait.
C'est ça, oui, sans vouloir cracher non plus les copains, on est d'accord, sur ce qu'ils ont apporté à l'anarchisme. Si tu parles de Kropotkin, qui était un prince, tu parles de... Bakounine, il était pas mal non plus. Moi, j'adore Bakounine.
Mais moi aussi.
J'adore ses écrits, mais c'est vrai que c'est des milieux qui sont au début du, enfin, du début du, enfin, milieu du 19e, des gens qui sont. Bah, c'est un peu normal, hein, dans un sens. C'est plus facile quand tu as reçu une éducation, etc., pour te poser des questions, et que quand tu dois travailler dans les mines et. Où à l'époque, c'est pas la journée de 8 heures, on est d'accord. Donc,
ouais, mais justement, moi, c'était vraiment pour appuyer le fait que peut-être que justement, les écrits qui sont plus dans le réel, plus dans une forme de militance du quotidien chez les femmes dont tu nous as parlé, il vient peut-être aussi de là, en fait, justement, la différence de milieu social, etc., ça, etc. Alors que quand t'es un prince héritier ou autre, bah, ta pensée, elle peut être plus dissidente, etc., quoi.
Mais cela dit, il y a pas que ça. Il y a aussi les anarchistes qui étaient paysans. Mmh. Et, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. C'est qu'on découvre une femme là qui, pour le coup, n'a jamais. Kate, elle est née dans le sud de l'Illinois, hein, donc à Troy Grove. L'Illinois, pour situer, c'est Chicago, hein, la grande ville avec Obama, les gens connaissent. Ouais, elle est née dans le sud de l'Illinois, et à Troy Grove, le 25 juillet 1865, d'une petite famille de paysans. Et c'est quelqu'un qui a fait trois États dans sa vie, trois États américains, et parce qu'elle travaillait à la ferme toute sa vie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est instruit par elle-même. Et on a, nous, anarchistes, je discutais par exemple avec une compagnonne parisienne qui me disait il n'y a pas longtemps, bon c'est un peu engueulé, mais elle est adorable, c'est pas pour dire, mais elle me disait ouais, mais moi je viens de Marseille et je bougerai plus de Paris parce que c'est là où tout se passe. Et je trouve qu'on a un peu cette vision de, voilà, le paysan c'est un bouseux, ou en tout cas le provincial est un bouseux. Il est évidemment pas éclairé, il est évidemment conservateur et il n'y a rien à faire, quoi. Et du coup, on a tendance à être dans des milieux parisiens, un peu bourgeois, un peu élitiste, un peu universitaire. Et moi, bon, bah, je suis ni bourgeois, ni élitiste, ni universitaire. Donc, comme je dis souvent quand je suis en province, je suis parisien, mais je prends mon temps, vous inquiétez pas, quand je suis au Caisse, par exemple. Et donc, voilà, j'ai tout mon temps et. Et du coup, même Emma Goldman avait un a priori sur les paysans. Hein, elle avait déjà fait d'ailleurs une conférence ou deux, je crois, sur. Je sais plus où c'était dans le Colorado. Enfin voilà, elle était tombée sur des paysans, pour le coup, qui étaient conservateurs. Quand elle est tombée sur Kate, en fait, elle a connu Kate. Bon, ça, c'est pas dans le livre parce que je l'ai appris très récemment. Ça fera peut-être partie de l'objet dans ce second ouvrage, d'une suite, on va dire. Je ne sais pas si. Parce que j'ai redécouvert les nouveaux articles, etc. Emma Goldman avait donc des a priori, et elle le raconte dans Living My Life quand elle est arrivée pour aller voir Kate. D'ailleurs, le voyage est assez rocambolesque. Hein. Elle part de la gare pour arriver. Sam vient la chercher en chariot. Vous imaginez les chariots de l'époque, bah, c'est le western. Hein. Fin du 19e, et il y a 35 bornes pour aller jusqu'à Kaplan Germil, la ville où ils habitent à la fin. Sam, c'est son mari, mari de Kate. Ils sont mariés, ils avaient 22 ans. Et le voyage est rocambolesque, enfin, ça saute de partout. Emma raconte que elle en avait plein le dos. En plus, ils ont pété une roue en chemin, il a fallu que Sam il la répare. Enfin voilà, c'était complètement cambolesque. Et en arrivant, c'est vrai qu'elle avait des a priori, et puis elle pensait que les paysans aussi c'était tous des riches. C'est-à-dire un peu nous ce qu'on pourrait avoir l'idée du paysan de la FNSEA, quoi. Les champs de beau, ça perd de vue. C'est ça un paysan. Quoi.
Propriétaire.
Alors que Kate, voilà, lui explique que il y a des petits paysans et que tu sois paysan ou que tu sois mineur ou que tu sois ouvrier, on est tous. Complètement sous le joug de la propriété. Et voilà. Donc j'ai voulu surtout écrire aussi parce que c'est une paysanne, pour casser un peu cette idée de, plutôt que d'aller professer entre nous dans des villes où on est sûr de trouver d'autres anarchistes, de professer la liberté à des gens qui sont déjà convaincus, je trouve pas qu'il y a un grand intérêt, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir en province quand je rencontre des copains qui, comme hier soir à Lyon, qui se sont démerdés, et je les remercie, je vous remercie encore le groupe de l'AFA pour ça, le groupe Brendana, c'est ça. Parce que je rencontre des gens qui sont pas forcément des anarchistes, et je crois qu'il faut retourner aussi à cet anarchisme là quoi. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je trouve qu'il est important d'écrire sur les anarchistes en général, et les femmes en particulier, sur le fin 19e, enfin quand le mouvement est né, en fait, c'est que on a une mauvaise vision de ce que peut être l'anarchisme aujourd'hui. Les idées sont très confuses. On a beaucoup de complotisme, beaucoup de les gens sont perdus, en fait, intellectuellement, je trouve. Ne lisent plus beaucoup. Enfin, c'est peut-être la vision que j'en ai. J'entends des trucs, mais absolument hallucinants, comme on n'a pas besoin d'être anarchiste, de lire pour être anarchiste. Bon, moi, ça me paraît quand même un peu difficile. Parce que pour se déclarer vert ou bleu ou quoi que ce soit, faut déjà savoir ce que c'est. Pour savoir ce que c'est, faut d'avoir lu, quoi. Et enfin, je suis un peu désolé. Et du coup, je pense qu'on a besoin de revenir à ce que c'est que l'anarchisme, à se poser des questions et voilà, et à trouver des figures peut-être qui nous inspirent. Je parle pas de leader, on est d'accord. Mais en tout cas, trouver des figures qui nous inspirent. Moi, on peut être inspiré soit par une femme, ou soit par un homme, ou soit par une femme noire comme Lucy Parsons, soit par un gars qui combat plus comme Durruti ou d'autres. Enfin, chacun avec sa sensibilité. Et de retrouver vraiment ce que c'est que l'anarchisme, et d'arrêter avec ces querelles de chapelle entre moi je suis individualiste, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis plutôt intellectuel, moi je suis plutôt. Moi ça me fait sincèrement, franchement marrer. Et d'ailleurs, souvent, ça m'arrive, on me demande, mais Kate, elle était quoi? Elle était révolutionnaire, etc. Bah, forcément, l'anarchisme, c'est une pensée révolutionnaire, hein, par essence, mais en fait, ce qu'ils s'attendent, c'est à savoir si elle était plutôt communiste, plutôt ceci, plutôt cela, alors qu'on voit très bien que dans sa vie, elle, pour elle, c'est l'anarchisme, point, j'ai envie de dire, et qu'elle le vit. Elle le vit dans l'éducation de ses enfants, hein, c'est une éducation très libertaire. Je crois que c'est Emma Goldman qui le raconte, que, bah, tout simplement, à la maison, les enfants étaient très libres et qu'ils avaient le droit à la parole comme les adultes. Faut reprendre le 19e siècle, hein, c'était pas du tout ça. Hein, c'était tu te tais et tu fais. D'ailleurs, les enfants, jusqu'à un certain âge, n'avaient aucun intérêt, parce que tant qu'ils travaillaient pas, voilà, c'est ça. Quoi.
Et justement, alors ça me va, on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais parce que moi, effectivement, tu parles de Kate Austin et de ce rapport à l'enfance, etc. Moi, il y a vraiment quelque chose, j'ai le souvenir, alors peut-être que je me trompe et tu me corrigeras. Mmh. Elle parle à un moment donné dans un texte, en fait. Alors, beaucoup, enfin, dans ton livre, c'est beaucoup, en fait, de textes qu'elle-même a publiés dans des journaux anarchistes, si c'est je ne me trompe, voilà, pas. Et en fait, il y en a vraiment un où, justement, je crois qu'elle revient sur les enfants, sur les personnes, finalement, qui sont sous tutelle, d'une certaine manière, des adultes, et dont on tait, en fait, l'individualité. Et effectivement, c'est très bien que tu le repositionnes. On est en 1900, quoi, environ. Quoi. Ouais, c'est ça. Même avant, donc c'est complètement dingue, en fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très révolutionnaire, effectivement, quoi.
Oui, bah oui, tu parles de le texte. Attends,
Mais vas-y.
C'est si tu me permets, parce que je les connais pas tous. J'ai pas appris le bouquin par cœur, en fait. c'est ça le problème. C'est dans les enfants sont-ils des êtres humains comme les autres?
Ah oui.
Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Et oui, dans ce texte-là, elle est en fait scandalisée par. Faut savoir que la presse anarchiste de l'époque, en fait, c'était un peu l'ancêtre, pour expliquer aux auditeurs, c'était un peu l'ancêtre de l'internet, à la fois du forum, du site d'actu et tout réuni, en fait. C'est-à-dire que bah, dans un journal anarchiste, on lisait déjà les articles des différents contributeurs. C'était pas vraiment des journalistes, c'était des gens qui voulaient contribuer tout simplement. Avec une pensée. D'ailleurs, au début, on le voit bien, les écrits de Kate sont assez courts, et puis après, ça devient assez long, parce qu'elle prend confiance, et puis elle développe ses idées. Puis aussi, on est à la fin de sa vie, elle est atteinte de tuberculose, et malheureusement, elle n'était pas vaccinée, donc voilà, évidemment, le vaccin n'existait pas. Et comme beaucoup d'anarchistes de l'époque, elle est morte de la tuberculose. Pour revenir au texte, Oui, alors c'est un texte entre Lizzie Holmes, je crois, et Moses Arman, qui sont l'un est éditeur d'ailleurs. C'est deux anarchistes en fait qui se répondent par voie de presse, hein, tout simplement, en écrivant des articles. Comme elle a eu une série aussi avec Voltairine de Clair ou d'autres. Donc dans le même journal, on écrit un article. Après, il y en a un autre qui vous répond. Vous vous répondez derrière. En fait, on suit quelque chose de complètement épistolaire, mais complètement public. Et elle se scandalise en fait de ce qu'elle lit. Il y en a un qui dit que en fait les enfants de mémoire appartiennent au père ou à la mère, etc. Et ça se bataille entre ça. Et elle pose la question. Mais attendez, est-ce que les enfants sont des êtres humains comme les autres? Comment, en tant qu'anarchiste et amoureux de la liberté, on peut mettre un droit de possession, de propriété sur un être humain d'ailleurs, quel qu'il soit, hein, c'est la question qu'elle pose, qu'il soit enfant, qu'il soit handicapé ou vieux ou quoi que ce soit. Oui, c'est une pensée qui est évidemment ultra moderne, et même sa façon de, encore une fois, de j'aime pas le terme éduquer, mais d'instruire ses enfants, et elle dit par exemple à sa fille qui doit a priori lui poser la question, et pourquoi on a si peu de meubles à la maison, et elle lui répond, bah attends, tu peux faire venir Louise Michel, Kropotkin, etc., quoi. Oscar Wilde, et puis tu peux aussi donner tout cet argent pour les mineurs en grève du New Jersey, etc., quoi. Enfin voilà, l'éducation, enfin l'instruction qu'elle donne, c'est les écrits d'abord. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très ancré, hein, les livres, moi je trouve, chez les anarchistes en général. C'est Sarah Béranger, d'ailleurs, une anarchiste espagnole du mouvement des Mujeres Libres, qui est un mouvement, c'est le plus gros mouvement anarcha-féministe, je pense, de l'histoire, avec 40 000, je crois, féministes anarchistes qu'on comptabilisait en 1938 ou 1939, c'est énorme en fait. Hein. Sarah Béranger disait quand elle est arrivée à l'anarchisme, elle avait quoi, dans les 15-16 ans, et elle disait, c'était une interview radio, je m'en souviens très bien, la première chose qui m'a frappé chez les anarchistes, c'est que quand on va chez eux, ils lisent plein de livres, et en fait, c'est les seuls que je connaissais qui étaient capables de se passer de manger pour pouvoir lire. Et je trouve ça absolument magnifique. Il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans. C'est vrai que moi, même des fois, j'ai du mal entre un livre et... voilà. Et des fois, je fais pas trop attention à ce que je gagne derrière, mais voilà. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, en fait. Il y a une soif qu'on retrouve chez Kate et qu'on retrouve chez beaucoup d'anards, hein, tout simplement, de s'instruire. C'est ce que disait Emma Goldman, l'élément le plus violent en société, l'ignorance, et c'est vraiment cette soif d'instruire. Et c'est ce qui a beaucoup étonné avec Kate, c'est qu'elle était une paysanne, et non seulement cela, il faut savoir qu'elle perd sa mère à la, de mémoire à la 11-12 ans, et évidemment comme elle a ferme, le père il est obligé de la déscolariser totale et de l'emmener... C'était pourtant une famille qui était infusée de journaux, de pensées, de la libre pensée. L'Amérique du 19e est traversée par différents courants, la libre pensée, l'anti-esclavagisme, le féminisme. Le premier mouvement féministe, il y a eu trois vagues féministes aux États-Unis. Le premier mouvement commence en 1845 avec la convention de Seneca Falls, et les premiers, on va dire, à céder le... On dit toujours accorder, mais je préfère dire ouais, céder le droit de vote aux femmes par leur lutte, évidemment. C'est le Wyoming, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est un état de cow-boy, quoi. C'est le Wyoming qui donne en 1865 le premier le droit de vote aux femmes. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus, je suis perdu.
Tu m'as perdu aussi.
Voilà. Et. Peu importe. Une autre question? Enfin, je sais pas. J'ai...
Bah après, l'autre question, c'est plus... qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils partent à la découverte, qu'ils fassent connaissance de Kate Austin?
Oh, bah, j'ai tellement envie de leur dire plein de choses. Qu'est-ce que tu veux que je... j'ai envie de leur dire que c'est à la fois quelqu'un de brillant, qui a des écrits sans concession. C'est vraiment l'anarchiste, enfin, moi, comme je le conçois, c'est-à-dire qu'il faut être pardon, il faut être cohérent entre ses idées et ses actes, et c'est vraiment ce qu'on voit dans sa vie. Et que des fois, d'ailleurs, on sent, il y a eu une conversation avec Voltairine de Clare, enfin justement par écrit comme ça, où elle sent qu'elle est allée trop loin, et où elle était peut-être un peu trop rigide, et alors qu'elle se dit, bon, c'est une compagnonne de l'autre côté, il faut peut-être que quand même que. Et du coup, elle lui écrit, elle lui dit, et puis Voltairine de Clare, bah, quand elle lui fait un hommage après sa mort, elle le dit, mais. J'avais tellement envie de lui dire qu'en fait, je la trouvais merveilleuse et que je l'admirais. Et donc, on imagine que Kate est morte un peu avec ce côté. Elle avait été radicale parce que des fois, bah, on a des choses à dire aux gens et ça fait pas forcément plaisir. Mais il y a quand même le côté humain et qui de dire bon, bah, j'espère que je l'ai pas trop blessé quand même. Du coup, voilà, il y a ça, il y a. Le livre, j'ai voulu que les gens découvrent Kate comme moi je l'avais découvert finalement en faisant des recherches, c'est-à-dire j'ai tapé en gros hein, sur un gros moteur de recherche américain que tout le monde connaît. Ensuite je suis tombé sur Wikipédia, des choses comme ça, et puis après j'ai fini par trouver une biographie qui avait été faite par le seul biographe qui existe d'elle dans une revue Nature Society and South de 1992. J'ai fait un résumé, je voulais pas pomper, je trouvais que c'était malhonnête, pomper l'intégrale, mais j'ai résumé en gros les grands traits de sa biographie. Pour moi, c'était pas si intéressant que ça. Évidemment, la biographie, c'est intéressant pour avoir les grands traits, savoir évidemment que dans sa vie, par exemple, ça aide à comprendre quand on lit les textes de savoir que cette femme n'est quasiment pas allée à l'école. Mais en dehors de ça, j'ai pas voulu tout mettre, les détails, les machins qui ont aucun intérêt pour le lecteur, ou en tout cas à mon sens, mais je peux me tromper. Et puis surtout, je voulais surtout avoir ses écrits. Et j'ai vraiment recopié tous les écrits qu'il y avait d'elle. Parce que je trouve qu'aussi, dans l'anarchisme, on a encore une fois, hein, parce que on a une vision des femmes anarchistes qui est une vision un peu. Mystifié, je dirais, par exemple de Louise Michel. C'est plutôt, on va parler de leur biographie, on va parler des femmes qu'elles étaient, des grandes femmes qu'elles étaient, c'est limite. Il y a quelque chose de très judéo-chrétien là-dedans. On revient à l'image, d'ailleurs, à Louise Michel, la Vierge Rouge. On peut entendre ça par moment, pas forcément chez les anarchistes, chez les marxistes, mais qui oublie que Louise Michel était anar, mais. Et voilà, c'est pour moi c'est problématique parce que c'est complètement sexiste, même si on ne le veut pas finalement. Parce que oui, d'accord, c'était des grandes femmes, mais on s'attache à un côté maternel on se raccroche à une certaine vision de la femme, alors que bah, si on lit leurs écrits, on va avoir un développement intellectuel, une pensée développée, argumentée, précise, virulente par moments. Kate, bah, je passe ses mots notamment, mais c'est pas la seule. Voltairine de Clare dans Le mariage est une mauvaise action en 1912 ne mâche pas ses mots non plus. Dans La question des sexes, Kate ne mâche pas ses mots. Donc voilà, elle développe une pensée intellectuelle, peut-être sur d'autres sujets, c'est sûr, comme l'amour libre, l'antimilitarisme, ce genre de choses. Ce qui me fait penser qu'en oubliant les femmes anarchistes, on oublie tout un pan de l'anarchisme qui est, oui, ce genre de sujet. C'est normal que les femmes étaient au début de la guerre, enfin avant 14. C'était pas chaud pour envoyer les gosses qui étaient sortis de leur ventre à la guerre, quoi, à la boucherie. Donc, c'est vrai qu'on va les retrouver beaucoup, notamment les institutrices françaises. Donc voilà, on a un peu je trouve cet essentialisme un peu de la femme, même pas méchamment, je veux dire. C'est on a été élevé dans des trucs et puis on a du mal à s'en sortir. Et quand on regarde une femme, et ben c'est forcément. Moi, en ce moment, je suis en train de traduire. Un petit pamphlet d'une marxiste. Ah, je suis désolé d'avoir traduit une marxiste, mais en même temps, son pamphlet est tellement génial et je pense qu'il va ravir tellement d'anarchistes, qui s'appelle Sabotage, de Elizabeth Gurley-Flynn. C'est évidemment de l'action directe. Bah, c'est sûr, si vous lisez ça, vous avez plus du temps. En plus, Elizabeth Gurley-Flynn, pour le coup, est une femme sur les photos qui est assez jeune, assez jolie, etc. Et puis quand vous connaissez sa vie, elle écrit un pamphlet en 1915 qui est. carrément elle appelle au sabotage et à dynamiter, enfin ce genre de choses. Donc c'est pas la jolie poupée.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est pas la femme douce, aimante et qui n'est pas.
Voilà,
vivante,
c'est ça.
Et
ça, c'est important aussi de pouvoir retracer ce genre de choses. Pour rebondir sur ta question, finalement, ce que ça m'avait apporté, peut-être que ça pourra apporter ça aux lecteurs, en tout cas de trouver une image de laquelle ils se sentiront plus proches, si comme moi, ils ne se sentent pas forcément très proches de Durruti. Mmh. Je dis pas que Durruti est pas bien, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais je dis qu'on est peut-être plus sensibilisé par certaines figures que par d'autres, et ça c'est complètement humain. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai recherché beaucoup sur les femmes anarchistes, et du coup, ça m'a fait vachement réfléchir, et comme je t'expliquais hier, ça m'a fait réfléchir aussi, moi, dans ma vie, dans mon appréhension, dans ma façon d'aborder les femmes, dans beaucoup de choses, en fait, hein, de arrête de faire le séducteur, ce genre de choses, ou de te la jouer, machin... essaye d'être plus naturel, ou... des choses comme ça, enfin voilà, t'apprends plein de choses qui te servent dans ta vie, peut-être, et finalement, c'est l'anarchisme en général qui me sert à être plus cohérent avec moi-même et du coup à mieux vivre qui je suis. Hein, je veux dire, en tant qu'handicapé, handicapé, moi j'aime pas le terme, mais c'est comme ça un peu que la société me voit. Alors évidemment, quand on me voit pas, c'est pas inscrit sur ma tronche, mais. Une fois qu'on le sait, voilà, on se dit, ah, cardiaque, machin, c'est du sucre et tout, c'est faible, attention, tu vois. Et c'est une image qui me casse la tête. Et les femmes anarchistes, pour moi, ont répondu à beaucoup de choses sur ces questions-là, quoi. C'est, ouais, ok, t'es pas costaud et t'en as rien à foutre, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Pour aller plus loin, évidemment, là, l'anarchisme m'a conforté dans ces idées-là et m'a amené encore beaucoup plus de choses sur tu n'as pas à rougir de ne pas être productif, par exemple ce que dit Kotoku, Sutshoi Kotoku en 1907, abolish money, abolissez l'argent. Il y a plein de choses, enfin voilà, que te dire.
Et ben que me dire. On approche peut-être de la fin de cette interview, donc je sais pas qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs, auditrices et pour Kate, pour qui fasse ses connaissances, qui
j'ai envie de dire encore deux trois choses. J'ai envie de dire comme je le dis dans le livre, moi je suis pas un spécialiste, moi je suis qu'un petit anarchiste, hein, et j'aime bien cette appellation. Je suis un 7 milliardième de l'humanité et ça me suffit comme ça. J'ai vraiment à cœur, parce que moi c'est quelqu'un qui m'a touché énormément, notamment dans les lettres que font les personnes qui l'ont connu, comme Emma Goldman, comme Voltaire Leclerc, qui sont des lettres très touchantes d'elle, de la femme qu'elle était, de la compagnonne et de la femme qu'elle était, de l'être humain, de sa sensibilité, de son intelligence, etc., de sa façon de pratiquer, d'être cohérente avec elle-même, dans sa famille, de... Par exemple, il y a un truc, hein, on me demande souvent... Oui, elle était contre le mariage, pourtant elle était mariée jeune. Ça n'empêche pas qu'elle avait l'air visiblement heureuse dans son mariage, hein, elle le dit d'ailleurs, mais qu'elle aime ses enfants, qu'elle aime son mari, et que ça se passe super bien. Bon, son mari, en plus, il est anarchiste comme elle, quoi, voilà. Ils partagent les mêmes pensées, la même philosophie de vie, j'imagine. Et, du coup, elle est heureuse, mais ça n'empêche pas d'être contre le mariage, parce qu'elle voit bien qu'autour d'elle, elle reste pas dans sa zone de confort, en fait. C'est très important. D'ailleurs, ça, elle en parle un peu plus loin dans un article, où elle dit il faut jamais rester dans sa zone de confort, il faut être dans l'agitation des idées. Il faut briser tous les tabous, et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé énormément. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas spécialiste de Kate. Toutes les informations que j'ai pu avoir, toutes mes sources sont dans mon livre, enfin dans le livre plutôt, pas mon livre, notre livre, puisque c'est à partir aussi au lecteur surtout. À chacun de, j'ai pas voulu non plus interpréter ce qu'elle avait dit, etc. J'ai voulu que chacun fasse son interprétation de ses textes. Alors évidemment, c'est ma traduction, mais Parce qu'à un moment, faut bien diffuser le savoir quand les gens, bah, y a la barrière de la langue, on va dire. Mais ça s'arrête là. Et j'ai envie de dire aux personnes bah, qui veulent s'intéresser à l'anarchisme ou qui sont même déjà anarchistes, de s'intéresser plus aux femmes anarchistes et surtout de... Je dis souvent, quand on veut savoir ce que c'est que l'anarchisme, on lit les hommes, mais quand on veut savoir ce que c'est qu'un anarchiste, on lit les femmes, quoi. Parce qu'elles sont beaucoup plus ancrées dans le terrain. Et de faire vos recherches, et de comme moi, de vous dire, mais ouais, les femmes anarchistes, elles ont produit des trucs pas mal, quoi. Il y a Eyin Zen en 1907, d'ailleurs, qui vient d'être traduit par... les éditions de la Symétrie, et Eyin Zen, qui est une anarchiste chinoise, qui a une pensée radicalement féministe contre la prostitution, contre elle s'élève l'avortement, enfin plein de questions comme ça, et qui est passionnante. Intéressez-vous et restez pas dans votre zone de confort, mais ça à la rigueur, c'est ce que vous direz, Kate, et essayez de. Et vous dites pas non plus que c'est aussi ça qu'on apprend avec Kate, c'est que c'était pas quelqu'un qui parce qu'elle avait pas fait d'études et se disait bon bah je suis pas capable. Ouais. C'est dites-vous qu'on est tous capables de faire le livre que j'ai fait, de faire ses recherches, même dans la vie de tous les jours, d'arrêter de se dire que les politiques sont des gens intelligents. C'est tout simplement des gens bien entourés. Il y a une grosse nuance. Hein. Ils ont un agenda, ils vont là où on leur dit, ils parlent de textes qu'on leur dit de lire. Enfin voilà et. Et on est tous intelligents. Je ne crois pas en l'intelligence, d'ailleurs. Moi. Je crois qu'il y a une espèce de flémingite intellectuelle. C'est autre chose. On fait l'effort de réfléchir ou pas, de se poser des questions ou pas. On arrête avec l'orgueil 5 minutes. Et l'orgueil un peu, même quand on est un mec viril. Ah non, moi, quand on est face à une femme, non, je ne veux pas avoir tort. Attends, pas face à une fille, quoi, c'est pas possible. Et non, voilà, il faut arrêter avec l'orgueil en général, qu'on soit une femme ou un homme, et se dire, bah voilà, quand on est acculé dans ses raisonnements, et dire, bah oui, j'ai tort. Et comme je dis souvent, j'aime bien avoir raison, c'est pour ça que je suis anarchiste, parce que j'aime bien avoir raison, et du coup, je suis obligé de me questionner sans arrêt, parce que si je ne me questionne pas sans arrêt, je ne peux pas avoir raison la fois d'après. C'est-à-dire, je vais avoir tort et je vais avoir tort encore la fois d'après. Alors ça, je supporte pas cette idée, si tu veux, tu vois. Et voilà, voilà. On apprend beaucoup de choses avec Kate, mais avec tellement d'autres finalement. Et voilà. Il faut s'imaginer cette femme dans le Missouri, le Missouri, à la fin de sa vie, les 15 dernières années de sa vie, où elle écrit la plupart de ses articles. Où elle fait collecte des fonds pour les mineurs, etc. Où elle parle aussi aux femmes. Elle se contente pas d'écrire. Hein. C'est quelqu'un qui parle, qui discute, qui discute avec les femmes de paysans, avec les paysans, qui leur parle d'amour libre. Bon, des fois ils sont complètement sidérés. Quoi, hein. À un moment, elle parle d'amour libre à une de ses amies paysannes, et l'autre est complètement atterrée. Elle la regarde avec des yeux ronds. Elle lui fait, mais attends, mais si Sam il part pour une autre, tu vas faire quoi, quoi? Et elle lui répond, bah si il l'aime. Et mais tu peux pas dire ça, quoi. Tu vois, bon, on vraiment, l'autre elle a une vision de la jalousie, tout ce truc ça, de la possession. Et l'autre elle lui fait, mais attends, mais t'en voudras au moins pas à l'autre femme? Et Kate lui répond, bah non, si elle l'aime sincèrement. Voilà, quoi. Et bah oui, en gros, c'est un peu ce que dit Emma Goldman dans un autre texte, d'ailleurs, qu'apporte l'anarchie aux femmes, c'est que de toute façon, c'est déjà assez douloureux quand ça brise, parce que bon, voilà, t'as des sentiments, on peut rien y faire, mais si en plus de ça, tu rajoutes l'idée de possession, de jalousie, de tout serré, tu t'empêtres dans des trucs terribles, tu vois, où tu te fais du mal pour rien. Et du coup, voilà, il faut...
Et du coup, tu invites les lecteurs et les lectrices, les auditeurs, pardon, les auditeurs et les auditrices, eh ben, à lire donc Kate Austin, paysanne anarchiste et féministe, qu'on retrouve aux éditions du Monde Libertaire. Et parce que je sais que avec toi, on peut partir pour une interview de 3 heures.
Ouais, donc, ouais, je sais bien. J'en suis, désolé.
C'est pas grave.
Je serais pendu sur la place demain matin.
Donc voilà, on vous invite vraiment à lire, à découvrir justement encore une personne, parce que justement l'anarchisme c'est aussi des individus, et que c'est important d'élargir justement cette pensée, elle appartient pas à 3, 4, 5 penseurs, en fait.
C'est clairement
plein,
ça.
Plein de gens. Y a et pas c'est de vraiment leader. Génial, en fait.
Ouais, y a pas de leader.
Justement, qu'on se rende compte, au travers de ton livre, de cette paysanne qui, au travers de ses contributions à des journaux anarchistes, etc., bah, fait évoluer sa pensée, fait évoluer la pensée, fait évoluer la critique, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je trouve, très intéressant. Donc, on en reste là.
On en reste là.
On dit au revoir aux auditeurs et aux auditrices.
J'ai envie de dire vive l'anarchie.
Mais bien évidemment. Et vive l'anarchie. Merci Aurélien.
Merci
et à
beaucoup.
Bientôt.
Au revoir.
Ciao.
It happened an hour ago, way down in this tunnel of coal. The gas caught fire from somebody's lamp and the miners are choking in smoke. Goodbye to Dickie and honey. Goodbye to the wife that I love. A lot of these men not coming home tonight when the work whistle blows. Dear sisters and brothers, goodbye. Dear mother and father, goodbye. My fingers are weak and I cannot write. Goodbye, Centralia, goodbye. It looks like the end for me and all of my buddies I see. We're all writing letters to children we love. Please carry our word to our wives. We found a little place in the air, crawled and drug ourselves here. But the smoke is bad and the fumes coming in and the gas is burning my eyes. Dear sister and brothers, goodbye. Dear mother and father, goodbye. My fingers are weak and I cannot write. Goodbye, Centralia, goodbye. Forgive me for the things I've done wrong. I love you lots more than you know. When the night whistle blows and I don't come home, do all that you can to help Mom. I can hear the moans and groans, more than 100 good men. Just work and fight and try to see that this never happens again. Dear sisters and brothers, goodbye. Dear mother and father, goodbye. My fingers are weak and I cannot write. Goodbye, Centralia, goodbye. My eyes are blinded with fumes, but it sounds like the men are all gone. Except Joe Valentini, Fred Gutzler, and Joy, trapped down in this hellhole of fire. Please name our new baby Joe, so he'll grow up like Big Joe. And he'll work and he'll fight and he'll fix up the mines. So fire can't kill Daddy no more. Dear sisters and brothers, goodbye. Dear mother and father, goodbye. My fingers are weak and I cannot write. Goodbye, Centralia, goodbye.
Et voilà, vous êtes de retour, ou en tout cas vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu, donc hein, c'est là que ça se passe.
RadioCanu.org ou sur 102.
Voilà, merci, t'as tout dit. Donc je rappelle le nom donc, du livre, c'est donc Kate Austin, paysanne anarchiste et féministe, c'est toujours aux éditions du Monde Libertaire, c'est au prix de 10 balles, voilà. Quoi vous dire d'autre?
Sinon c'est moins cher auprès des groupes de l'AFA.
Aussi, ouais.
Parce que c'est leurs éditions et donc ils font des prix.
Vous pouvez voilà. Vous approcher d'eux. D'eux et elles. En tout cas, des groupes. Je voulais juste citer quand même l'artiste qu'on a entendu clore cette interview. C'est donc Woody Guthrie, je pense, avec The Dying Miner. Et je voulais juste dire, parce que je l'ai découvert en fait en montant le truc, c'est.
Aurélien.
C'est Aurélien que je remercie encore une fois. Et qui m'a filé. Tiens, il m'a dit tiens, ça pourrait être sympa, ça colle plus. On va dire aux localités un peu plus près de la réalité de Kate Austin, même si la chanson date de 1941, c'est quand même cet artiste, il a fait 3 titres en un jour autour de justement de la vie des mineurs suite à un accident dans une mine en fait. Et c'est, enfin voilà, c'était un des chanteurs, comment dire,
emblématique
et avec une pensée sociale et proche des idées libertaires.
Et très inspiré par Joe Hill.
C'est tout à fait
pour
ça.
Pour ceux qui connaissent Joe Hill, voilà.
Tout à fait.
Pour
ça.
Ceux qui ne connaissent pas, ben un jour, vous renseignerez sur qui est Joe Hill.
Ouais, voilà. Eh bien, vu qu'on est déjà vachement à la bourre, eh bien, on va passer au bref. Pardon. Et donc, on commence, c'est toute la semaine, hein. On le répète toutes les semaines, mais ça peut servir. Donc, faites connaître l'info aussi autour de vous. C'est donc la permanence d'aide aux travailleurs sans papier qui a lieu donc tous les jours de 10h à midi à l'Union départementale de la CGT. C'est au 215 cours Lafayette dans le 6e arrondissement.
Ensuite, vous avez tous les lundis une permanence juridique de soutien aux sans-papiers et à leurs proches. Donc, c'est plus large que la première permanence. Là, c'est de 18h30 à 20h et c'est à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e.
Tout à fait. Et c'est lundi 22 toujours. C'est venez expérimenter en atelier l'écriture comme résistance et transgression aux institutions de la communication, comme occasion concrète de se réapproprier le sens de nos actions, le lundi donc 22 avril à 18h au Cédrats, en bas de la montée Saint-Sébastien, dans le premier arrondissement. C'est un moment pour faire sens, mais aussi pour découvrir, en soi et ensemble, des outils d'appropriation de la parole, et ainsi avancer là où, peut-être, les trois petits points pourront se lever. Et j'ai presque envie de rajouter, prendre la parole dans une radio associative peut aussi être un moyen de se réapproprier les choses.
Voilà,
je glisse ça comme ça.
Ok. Mardi 23 avril, en réponse à l'appel au secours d'une personne détenue et en soutien à toutes et tous les prisonniers et prisonnières, rassemblement spontané devant le CRA, alors c'est Centre de Rétention Administratif de Saint-Exupéry, ce mardi 23 avril à 18h30, et c'est donc à l'appel de plusieurs collectifs.
On passe ensuite au jeudi 25 avril. C'est projection et débat autour du film « À Bure pour l'éternité ». La soirée débutera avec la projection donc du documentaire « À Bure pour l'éternité », suivi d'autres documentaires, puis sera suivi d'un bilan débat en présence du réalisateur Sébastien Bonetti et du collectif La Clique des Amis de Bure. Ah oui, c'est la CAB.
C'est ça,
la CAB. Et c'est donc rendez-vous jeudi 25 avril à 19h à la MJC de Jean Massé dans le 7e arrondissement.
Et je pensais que tu allais dire que c'était 38 rue Camille Roy, mais non. Voilà. Vendredi 26 avril 2019, discussion. Le syndicalisme et les travailleurs et travailleuses sans papier. Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière propose un temps de discussion autour de la question du syndicalisme et des travailleurs et travailleuses sans papier. La régularisation par le travail représente en effet une voie possible de régularisation en France. Et les syndicats ouvriers ont montré à travers leur histoire et leur principe qu'il pouvait être un allié de taille dans cette voie. Donc rendez-vous le 26 avril à 19h au local de la CNTSO. Alors c'est au 8 rue Paul Lafarge à Villeurbanne, métro Lafargue. Ah oui, Lafargue. Lafarge, c'est ceux qui font du béton, rien à voir. 8 rue Paul Lafargue, 6900 Villeurbanne, métro Gratte-Ciel.
Et on termine dimanche prochain, dimanche 28 avril. Ces projections et rencontres autour de la Kanaki, lecture, projection, vidéo suivie d'une rencontre débat autour de la Kanaki, une matrice pour une souveraineté de tous les Outre-mer, c'est une question. Rendez-vous donc dimanche 28 à 15h30 au Rita Plage avec deux Kanaks, Nathalie Muchamad et Denis Pourawa. C'est au 68 cours Tolstoï à Villeurbanne. Et évidemment, on vous donne le rendez-vous suivant, c'est dimanche 22h, 23h à l'antenne de Radio Canu.
C'est pour la causerie.
Et ben voilà. Quoi ouais. De plus ?
Rien.
Ben voilà. Et ben tu vas peut-être annoncer alors le titre avec lequel on va se quitter.
Ah oui, c'était ça que je voulais dire. je savais qu'il y avait un truc qu'il fallait que j'annonce. Ça. Donc là, on va se quitter avec un titre que j'aime bien et une artiste que j'aime beaucoup. Voilà, alors ça s'appelle SLT, comme salut sur les réseaux sociaux et, ou sur les applis, vous voyez. Et c'est un titre de Suzanne et ça nous parle du harcèlement ordinaire. Voilà. Et le tout en électro. Et comme elle le dit, bats-toi fillette. Et alors, moi, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Des bisous.
Bisous. Ciao. Salut.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4h, t'es si appétissante. Je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire. terre, tu sais. Moi je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. S'il faut arrêter de te plaindre, là tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi c'est dangereux, pire que le mal incarné. Et toi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent si tu donnes pas le droit. Bats-toi, fillette. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Bats-toi, fillette. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première, passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une bouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi, fillette. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, c'était vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma teub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne, qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon t'es comme les autres, j'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais.